Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Ktuvot, page 67, DAF Samer Zain.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Ktuvot Samer Zain. Rabbi Lazar Ben Rabbi Tzadok a prêté serment en disant « Si c'est faux ce que je dis, je ne verrai pas la reconstruction du Yerushalayim. » Je l'ai vu, cette fille-là, la fille de Nachman Ben Gurion, qui recherchait les séorim entre les pieds de chevaux à Akko. À ce sujet, j'ai dit le passo qui m'était de l'art et à Fabanachim. Si tu ne fais pas attention, la plus belle des femmes, on parle du peuple juif, vient de Seilach, Beikvot Hatson, tu vas sortir, chercher de la nourriture, Beikvot Hatson, c'est-à-dire chez le menu bétail, ou Iet Gediotair, pour avoir une parnassa. Et il a dit qu'on ne devait pas lire le passo Gediotair, et là, Geviotair, c'est-à-dire pour ton corps, pour te nourrir. J'ai la Gemara que si jamais une femme a donné dans sa dot des morceaux d'or, on va dire des lingots d'or, on va les évaluer à égalité. On avait vu qu'il y avait des évaluations qui étaient exagérées, des évaluations qu'il fallait surévaluer. C'est-à-dire, tout ce qui était argent, il fallait qu'il donne une fois et demie en plus. Tout ce qui était ustensile, il donnait 20% de moins. J'ai la Gemara, pourtant, il y a une Breta qui dit que Zahav, c'est défini comme des kelim. Et donc, est-ce que ça serait comme des kelim qui sont en argent et donc il devra donner 20% de moins? On dit non, comme des kelim en Zahav qui ne bougent pas. Ils ne s'abîment pas et donc ils sont évalués à leur prix exact puisque tout le monde connaissait l'ordre exact du prix et il n'y avait pas de dévaluation du métal. Dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué Kekelav, c'est-à-dire des kelim qui sont faits dans sa matière en or? Mis à part ça, il y a une Braïta, il est marqué que l'or est défini comme des kelim. Par contre, si c'est des pièces d'or, c'est défini comme l'argent. Hashbag nous dit que ça dépend. Si c'est dans un endroit chez Nagou, chez l'Olefortan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de change habituel, eh bien, on va les évaluer à leur valeur exacte. Demande la Gemara de quoi Hashbag parle pour pouvoir poser sa question. S'il parle sur la CFA, c'est-à-dire dans un cas on parle de pièces, et il vient te dire que l'argent, que ça dépend si ces pièces-là sont utilisables. Ça voudrait dire que d'après Tanakama, même si elles ne sont pas utilisables, eh bien, on devrait les définir comme de l'argent, même si elles ne sont pas utilisées facilement sur le marché, alors elles ne sont pas utilisables. Et là, forcément, on parle dans la récha. On ne parle pas de pièces, on parle de morceaux d'or, de lingots d'or. Et lui dit que le zav, c'est défini comme des kelim. On parle de kelim de kesef, c'est-à-dire qu'il faut les dévaluer. Et Hashbag nous dit non, ils sont comme des dinarim chez le zav. Dans un endroit où on n'a pas l'habitude de les échanger, c'est-à-dire qu'ils ont leur valeur habituelle. Et donc, on a un avis qui serait contre l'avis de Rabbi Yochanan, qui lui pense que l'or n'est pas dévalué. Jacques Manon, Mehmet, il parle de la CFA, c'est-à-dire qu'il parle des pièces d'or. Et en vérité, cet or-là, il est utilisable, mais très difficilement. Tanakama pense que, puisqu'on peut l'utiliser, eh bien, lui, le payer une fois et demie, comme on avait dit quand il reçoit de l'argent. Alors que Rajbag pense que, puisqu'on ne peut les utiliser que difficilement, c'est pas défini comme de l'argent, c'est pour cela qu'il n'est pas obligé de payer une fois et demie plus. Autre explication, il n'y a pas de marloquette. En vérité, tout est Rajbag. On te dit que si c'est de l'or, c'est défini comme des kelim en or. Si c'est des pièces d'or, c'est défini comme de l'argent, il devra donner une fois et demie. De quel cas on parle? Quand elles sont facilement utilisables, quand elles sont difficilement utilisables, on leur fait l'évaluation et elles n'auront pas une fois et demie, elles seront exactement à leur valeur. Parce que c'est ce que Rajbag disait, qu'un endroit qui ne sont pas utilisés, on les considère comme de l'or même, et c'est-à-dire leur valeur même. Demande la Gemara, oui, mais bon, tu m'as bien répondu, mais on aurait dû marquer Kelav et non pas Kelim. Mehmet, la Gemara reste sur cette question. Autre explication possible. Mehmet, ici, on voit que l'or, il y a une marloquette à son sujet, mais on ne parle pas du même or. On parle de Dahava Pricha, c'est-à-dire des morceaux d'or, et quand on les utilise, il y a des petits morceaux qui tombent, et c'est pour cela qu'il y a dévaluation. Ou alors, autre explication, on parle de poudre d'or, et c'est sûr qu'il y a une perte, et c'est pour cela qu'il devra payer moins, il devra payer 20% moins. Eh bien là, il nous dit que des parfums à Antiocha sont définis comme l'argent parce que c'était quelque chose qui était la monnaie d'échange. Abishol Ben Nachmani nous dit que des chameaux dans les pays arabes, c'est aussi défini comme une monnaie d'échange et c'est pour cela qu'il devra rajouter une fois et demie. Rafapé nous dit que des habits qu'on donnait dans la ville de Bémurcé, la femme aussi va prendre une fois et demie puisque c'était comme une monnaie d'échange. Rafapé nous dit que des sakim qu'on utilisait dans la ville de Rodia ou des cordes qu'on utilisait dans la ville de Kimkonia, mais aussi la femme va prendre une fois et demie. Rabban nous dit qu'au début, il pensait que ces bourses pleines d'argent qu'il y avait à Mechosa, c'était défini comme un bien sûr, et que la femme pourrait récupérer sa ktouba et sa tosevet quand elle vient récupérer des orphelins, elle pourrait le toucher de là-bas. Pour quelle raison? On a une smichut da'at, c'est-à-dire qu'on est persuadé, on est assuré par ses portefeuilles. Rabban nous dit, mais puisqu'au final, j'ai vu que quand ils recevaient l'argent, en fin de compte, ils allaient acheter de l'immobilier, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de smichut da'at, et donc elle n'a le droit de récupérer que de karakorot. La Mishnah nous dit que si jamais un homme s'engage à marier sa fille, il doit lui donner au moins chamish imzouz. S'il a dit clairement qu'il ne voulait rien lui donner, qu'il était capable de rien lui donner, le mari ne devrait pas dire, bon, bah, quand elle sera ma femme, je m'en occuperai. Il doit s'occuper d'elle pour le mariage aussi. Un gabaï tzedaka qui marie une yétoma, il ne doit pas lui donner moins que 50 zouz. Et s'il y a suffisamment d'argent dans la koupa tzedaka, il devra lui donner les fikvoda. Nous, la Gemara, quand on parle de chamishim zouz, dans la Mishnah, on parle des zouzim shutim, c'est-à-dire ceux qui font 7 fois moins que le prix de zouzim tzurim. D'où je le sais, parce qu'il y a marqué que si jamais il y a de l'argent dans la koupa tzedaka, on doit lui donner. Arrête, tu as dit qu'on devait lui donner 50 zouzim. Si je lui ai déjà donné 50 zouzim, et 50 zouzim tzurim, c'est déjà énormément d'argent, j'ai pas besoin de rajouter. Donc forcément, on parle de 50 zouzim shutim. La Braïta nous dit que si un yatom et un yatoma viennent pour recevoir, pour être nourris, on donne d'abord à l'yatoma après au yatom, puisque l'homme peut faire la manche, pour la femme c'est très difficile. De la même manière, un yatom et un yatoma qui viennent se marier, on donne d'abord à l'yatoma et après au yatom, puisque la honte de la femme qui ne peut pas se marier est beaucoup plus insupportable que pour l'homme. La Gemara nous dit qu'un yatom qui vient se marier, d'abord on lui loue une maison, on lui prépare tout ce qu'il a besoin dans la maison, et après on lui donne une femme, comme il est marqué, tu devras lui donner des marceaux à Chérir Sarlo. Donc ce qui lui manque, c'est une maison. Chérir Sarlo, c'est tout le mobilier de la maison. Yersar lo, lo zeisha, comme il est marqué, et c'est lo, ezer kenegdo, on parle de la femme. Abraïta nous dit que des marceaux, on doit lui donner ce qu'il a besoin, on n'a pas une mitzvah de l'enrichir. Cher Yersar lo, s'il était riche, on doit faire en sorte que, tant que personne ne le sait, il doit recevoir exactement comme il avait avant. Il est lui-même, avait pris pour une personne qui était devenue riche, il lui prenait un cheval avec quelqu'un qui court devant, et une fois, il n'en a pas trouvé, il a lui-même couru devant lui. Marita aussi nous raconte qu'on avait pris pour un pauvre qui était d'avant riche, d'une ville de Tzipour, on prenait l'Itra Bassar, c'est à peu près 500 grammes de viande. Donc dans la Gemara, c'est pas grandiose. On parle de volaille et ça coûtait plus cher. Voilà, on parle de l'Itra, on parle pas de la quantité de viande, on parle de la quantité d'argent. Et là, la Gbemet, ça fait qu'on achetait beaucoup de viande. On dit que c'était un petit village et pour acheter cette petite quantité de viande, tous les jours, on perdait beaucoup d'animaux, mais c'était pour respecter son ressenti. La Gemara nous dit qu'une fois quelqu'un qui est venu chez Rabbi Nechemia, et Rabbi Nechemia lui a dit: qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Il lui a dit: j'ai l'habitude de manger de la bonne viande, du bon vin. Il lui a dit: moi je peux manger avec toi des hadashim, des lentilles. C'est ce qu'il lui a donné. Et l'autre il est mort. Et puisque pourquoi il est mort? Parce qu'il n'avait pas l'habitude. Rabbi Nechemia a dit: c'est, oh là, le pauvre. Et c'est moi qui l'ai tué en plus. La Gemara dit: bah, si c'est toi qui es responsable, tu ne vas pas dire lui le pauvre, c'est toi le pauvre. Il dit: non. C'est lui qui s'est habitué à quelque chose qui n'était pas habitué au départ. Et donc c'est lui, ce pauvre, qui est responsable. Mais il avait quand même de la peine que cette punition lui est arrivée à travers lui. Agmar nous dit que quelqu'un est venu chez Rava, il lui a dit: qu'est-ce que tu manges en général? Il lui a dit: je mange de la bonne viande et du bon vin. Il lui a dit: quoi, mais t'as pas honte de prendre ça sur le compte du public? Encore une fois, on parle de quelqu'un qui n'avait pas cette habitude avant. Il lui a dit: mais quoi, c'est de ta poche que je paye, c'est Hachem qui paye. Comme il est marqué, il est marqué Beito, il n'y a pas marqué Beitam. Il y a marqué Beitam, il y a marqué Beito, pas Beitam. Après, il y a marqué Beito, parce qu'on regarde par rapport à chacun. Hachem n'en a pas l'installé à chacun. Entre-temps, la sœur de Rava, qui n'était pas venue pendant 13 ans, est venue le voir et lui a amené de la bonne viande et du bon vin. Et Rava a été étonné, mais en fin de compte, il a dit au pauvre: mais tu vois, Hachem t'a écouté, mange. La Gemara nous dit que celui qui n'a pas de quoi manger, mais il ne veut pas prendre la tzedaka, on lui propose de lui donner un prêt, et après, on n'ira pas le récupérer. Chachamim nous disent qu'on lui propose au départ de lui donner un cadeau, et après, on lui propose de le prendre un prêt. Je dis: moi, mais c'est sur quoi lui proposer un cadeau? Il a dit qu'il ne veut pas prendre. La Gemara dit: non. Au début, on lui propose quand même, même s'il n'est pas venu de lui-même, on lui propose un cadeau. Et au final, s'il ne veut pas, on lui propose un prêt. Si jamais il a de l'argent, mais il ne veut pas l'utiliser parce que c'est un rabbin, alors on lui donne en tant que prêt, en tant que cadeau, pardon, et après on récupère. Le Jagma, bon, mais ça ne sert à rien alors. Je n'ai pas compris. Au final, il acceptera plus jamais tes cadeaux. Jagma, on récupère ça après son laissez. Michel lui dit: moi, je ne suis pas d'accord. S'il a de l'argent et qu'il ne veut pas, tant pis pour lui, on le laisse transcer son problème. S'il n'a pas, il ne veut pas recevoir de la tzedaka, on lui dit: tu sais quoi, prends un mashkon, donne-moi un mashkon, et comme ça, après, on te pètera, comme ça, lui, il sera heureux qu'on le considère et qu'on lui donne un prêt, et non pas un cadeau. Agmar nous dit que dans le passé, il est marqué Havet. Havet veut dire prête. Donc, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'argent, à lui, tu dois prêter. Et après, tu récupères pas. T'as Avitenu, c'est celui qui a de l'argent, et qui ne veut pas utiliser son propre argent, alors on lui donne, et au final, on récupérera. Mais il dit: non, ma pitom, ça, c'est pas le rabbi. Il nous dit: ma pitom, celui-là, on lui donne rien du tout. Et quand il est marqué Avet, t'es invité, nous, c'est une façon de s'exprimer. Et on raconte qu'il y avait un pauvre qui était à côté de Maroukva, et il lui envoyait tous les jours 4 zouz, il les faisait rentrer par la porte. Un jour, ce pauvre a dit: je vais voir c'est qui me donne. Maroukva a tardé, et au final, il a vu qu'il s'est approché de la maison du pauvre, il a vu que le pauvre attendait à la porte, il est vite parti se cacher avec sa femme. Ils sont rentrés dans un four qui était encore chaud pour se cacher, et les pieds de Maroukva commençaient à brûler. Sa femme lui a dit: assis-toi sur moi, mais les miens ne brûlent pas. Et Maroukva était attristé que lui, il n'avait pas reçu ce niveau de. de protection. Il a dit non, mais ne sois pas embêté, puisque c'est moi qui ai la maison, et c'est pour ça que c'est moi qui donne en général plus facilement de la tzedaka. Donc la Gemara, pourquoi est-ce que Maroukou a fait ça? Arrête, pourquoi est-ce qu'il met ça en danger comme ça? La Gemara nous dit, on l'apprend de Tamar, qu'il vaut mieux se jeter dans une kivshan haesh plutôt que de faire honte à quelqu'un. Quand Tamar, on lui a dit, tu as eu un rapport interdit, elle n'a pas dit que c'était Yehuda. Donc on voit qu'il vaut mieux se jeter au feu que de faire honte à quelqu'un. Autre histoire avec Maroukou, il avait l'habitude d'envoyer 412 toutes les veilles de Kippour à une personne. Une fois, il a envoyé son fils. Et son fils est venu lui en disant qu'il n'a pas besoin. D'où tu sais? Parce que je vois que pour parfumer sa maison, il utilise du vin de qualité. Il dit, ah, je ne savais pas qu'il était aussi méfounac. Et c'est pour ça qu'il aurait décidé d'envoyer plus d'argent. Quand il est décédé, Maroukou, il a demandé à regarder ses comptes de Zedaka. Il a vu qu'il avait écrit là-bas 7000 dinarim chinois. Et c'est une somme énorme. Il a dit quoi? Je pars pour une si longue route et je prends une toute petite valise. Il a dépensé la moitié de son argent. La Gemara demande comment est-ce qu'il avait le droit de faire. Alors il a marqué mes bases, les bases de Tamir Khomesh. Il n'a pas le droit de dépenser que plus que 20%. La Gemara dit oui, ça c'est vrai, quand il est encore en bonne santé. Mais quand il est à la fin de sa vie, il n'y a aucun risque, puisque tout problème c'est quoi? C'est qu'on a peur qu'il s'appauvrisse. Mais là, de toute façon, il va mourir. La Gemara qui avait Rabbi Ava, qui avait une autre technique, mettait de l'argent sur un soudard et il se promenait avec. Et les gens venaient par derrière prendre, mais il faisait quand même attention à surveiller qu'il n'y avait pas des Ramaïm qui essayaient de prendre cet argent. Rabbi Khanina, il avait un pauvre qui avait l'habitude de lui envoyer 4 zouz toutes les veilles de Shabbat. Une fois, il l'a envoyé par sa femme, et elle est venue, elle lui a dit, il n'a pas besoin. Tu sais qu'il n'a pas besoin. Il a dit, parce que j'ai entendu que sa femme lui disait, qu'est-ce que tu veux, quelle nappe tu veux que je mette? Celle en or ou celle en argent? Et il a dit à ce sujet, parce que bien mettre une nappe en or ou en argent, c'est Stam un pinouk. Il a dit, donc je comprends que c'était quelqu'un qui était Ramaï. Moi, au Hachem, qu'on a des Ramaïm, parce que sinon on aurait été considérés comme des gens qui fautent, puisqu'il est marqué dans le passage que Vekar, Alecha, El Hachem, Vaya Bechachet. Et on dit à ce sujet que tout celui qui ferme les yeux de donner la Tzedaka, il est défini comme Avet Okhamim. Il est marqué, fais attention, Ben Yemilavar, Imlevafra Bilial. Et il est marqué au sujet de Yerem Dachat et Sonachim Bilial. Donc, de la même manière que Avodat Kochavim, là aussi, quand il est marqué Bilial, c'est Avodat Kochavim. Et c'est pour ça que celui qui ferme les yeux de la Tzedaka est défini comme un Racha. Et puisqu'il y a des Ramaïm, alors c'est grâce à ça qu'on est protégé. La Gemara dit que celui qui dit qu'il est aveugle, ou celui qui dit qu'il est malade, ou celui qui dit qu'il est boiteux, c'est ce qui lui arrivera un jour. Celui qui prend de l'argent de la Tzedaka alors qu'il n'a pas le droit d'en prendre, eh bien, au final, il en aura besoin. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a dit que de l'or, d'après Rabbi Yochanan, ce n'était pas à dévaluer. On a donné une première explication qu'il y avait une marloquette au sujet de l'or qui était utilisé, qui pouvait être utilisé. Est-ce qu'il fallait lui donner un statut d'une fois et demie ou pas? Autre explication qu'on a donnée, qu'il y a des qualités d'or. Il y a de l'or qui peut s'abîmer comme de la poudre ou des petits morceaux. Dans ce cas-là, on pourrait comprendre qu'on devrait lui donner 20% de moins. On a vu qu'il y avait toutes sortes de marchandises qui étaient définies comme de l'argent. C'est pour ça que le Khatan devrait le payer une fois et demie. Un arnaque de Zouzim n'est pas défini comme Mekarkaïm, la femme ne peut pas recevoir de Ktouba. Un homme qui marie sa fille doit donner au moins 50 Zouz. Si le Khatan s'engage à la marier alors que le père ne donne rien du tout, il doit le faire avant le mariage. Le Gabay Tzedaka doit donner d'abord, il doit donner aussi 50 Zouz, et s'il y a plus d'argent, il doit donner plus. On a vu que s'il y a Yatom et Yatoma, on s'occupe de la Yatoma d'abord, que ce soit pour la marier ou pour être le faire la Sota. On a vu aussi qu'on doit entretenir le pauvre, mais on n'a pas de mitzvah de l'enrichir. Mais d'un autre côté, celui qui était riche, avant que ça ne sache qu'il est pauvre, on doit faire attention à ce qu'il ne soit pas, n'ait pas honte au sein des gens. Une personne qui a été mitpanek, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas cette habitude et qui a pris cette habitude, c'est son problème à lui. On essaiera de le convaincre de ne pas prendre autant. Marloket entre Rabbi Meir et Rabbanan, dans un cas où le pauvre ne veut pas prendre, est-ce qu'on lui propose de prendre un prêt au départ ou est-ce qu'on lui propose de prendre un cadeau et seulement après, s'il ne veut pas prendre, on lui propose un prêt? Quelqu'un qui a l'argent et qui ne veut pas utiliser son propre argent, marloket, est-ce qu'on lui propose un prêt, on le récupère après son décès ou on lui propose rien du tout? C'est-à-dire, tant pis pour lui s'il a de l'argent et qu'il ne s'en déplace pas et qu'il ne l'utilise pas. On a vu l'histoire de Maroukva qui était prêt à se brûler les pieds. Sa femme, elle ne s'était pas brûlée les pieds parce qu'elle donnait directement au pauvre. Son prêt, c'est de la protéger. On a vu aussi qu'il y avait Maroukva qui avait envoyé plus d'argent à celui qui avait un plus grand besoin. Il a, en fin de compte, à la fin de sa vie, dépensé plus de la moitié de ses biens, bien qu'en Houchin, on a dit pas moins de 20%, pas plus de 20%, mais avant son décès, il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit de dépenser autant qu'il veut. Rabbi Khanina s'est rendu compte qu'une personne lui mentait au sujet de Tzedaka, il a dit heureusement qu'il y a des Ramaïm, puisque grâce à eux, on est protégé du statut de ceux qui ne donnent pas de Tzedaka. Tout celui qui dit qu'il ment et qui dit qu'il est malade ou autre, un jour, c'est ce qui lui arrivera. Celui qui prend la tzedaka, c'est alors qu'il n'en a pas besoin. Un jour, il en aura besoin. Le daf est clair, Baruch HaShem. Et demain, Bezrat HaShem.